Vous êtes sur RTL.
C'est l'été.
C'est l'été.
Laissez-vous tenter sur RTL.
Stéphane Carpentier.
Il n'y a pas de saison pour la culture, vous savez. Aujourd'hui, c'est musique et lecture avec Steven, Anthony et Bernard. Bonjour les garçons.
Bonjour.
Steven, on poursuit notre belle série d'albums en or avec ce jeudi Carla Bruni.
On connaissait la mannequin, la France craque pour la chanteuse. Quelqu'un m'a dit sort en novembre 2002. C'est le tout premier album de Carla Bruni. Succès surprise, 2 millions d'exemplaires vendus à l'époque.
En vérité, j'écrivais depuis pas mal d'années. J'avais proposé des chansons à l'écoute de Bertrand Delabbé, qui est mon agent, qui est quelqu'un de très important pour moi. Et Bertrand m'avait demandé quelques textes qu'il avait proposés à Julien Clerc, sans lui dire que j'avais écrit. Donc j'ai commencé un peu comme ça, en écrivant pour les autres, ce qui est une belle manière de rentrer dans la chanson. C'est pas la porte principale, c'est l'autre porte, c'est vraiment l'entrée des artistes.
Il faudrait que tout le monde réclame auprès des autorités.
J'étais pas en studio, j'étais chez mon copain Bertignac, mon vieux pote, qui a un studio chez lui. Et au début, j'ai essayé de produire l'album normalement dans un studio avec des musiciens et tout ça. Et puis finalement, j'ai apporté mes maquettes à Bertignac. Il les a démontées et il les a rhabillées avec ses guitares.
Quatre consonnes et trois voyelles, c'est le prénom de Raphaël. Je le murmure à mon oreille et chaque lettre m'émerveille. C'est le tréma qui m'ensorcelle dans le prénom de Raphaël.
Donc il a vraiment utilisé mes maquettes et je crois que c'est de là que vient le petit miracle de cet album. C'est aussi un son vraiment pas commercial.
C'est moi le plus beau du quartier, mais prenez garde à ma beauté, à mon exquise ambiguïté. Je suis le roi du désirable et je suis l'un des habillables.
Quelqu'un m'a dit j'avais commencé par le texte et je cherchais une musique et j'avais une musique un peu lente. J'étais très enrhumée, j'étais à la boule, je m'en souviens très bien. Petit à petit, j'ai trouvé la musique assez facilement. Mais en général, j'écris en même temps la musique et les paroles. Cette expression qu'on utilise tout le temps. Au fond, si quelqu'un vous aime encore, et ou si quelqu'un vous l'a dit, c'est aussi bien que vivre quelque chose. Ce moment où quelqu'un vous dit que quelqu'un d'autre vous aime encore, au fond, n'a pas besoin d'être vrai. Voilà ce que veut dire la chanson.
Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, ses secrets. Ne dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors?
J'ai souvent changé de vie, je sais pas pourquoi. C'est un peu l'histoire de ma vie, j'ai de la chance. Je réchigne pas à changer de vie, changer de pays, j'ai changé de langue, j'ai même changé de père. Et donc, oui, je change facilement. Et, mais ça me gêne pas, au contraire, ça me donne l'impression que la mort n'est pas tout près, quoi.
Je suis excessive, j'aime quand ça a des axes. Quand tout accélère, moi je reste relax.
Ça devait être un album très confidentiel. Puis il est arrivé comme un enfant béni, un peu.
Quand j'aurai tout compris, tout vécu d'ici bas.
Et il a fait un parcours stupéfiant.
Quand je serai si vieille que je ne voudrai plus de moi.
J'ai reçu des appels pour cet album étonnant. Une amie de ma mère un jour dans un taxi à Istanbul. Un copain de mon frère au Cap Horn. Dans une espèce de bar où il entendait mon album. Donc en fait, cet album a voyagé partout. C'est un coup de bol, vous savez, la chance c'est extraordinaire. Faut pas la laisser passer. C'était une extraordinaire expérience pour moi.
Quand je verrai ma main juste au pied de mon lit, que je la verrai sourire de ma si petite vie, je lui dirai, écoute, laisse-moi juste une minute. Juste encore une minute, juste encore une minute. Pour me faire une beauté ou pour une cigarette. Juste encore une minute, juste encore une minute. Pour un dernier frisson, pour un dernier geste. Juste encore une minute, juste encore une minute. Pour ranger les souvenirs avant le grand hiver. Juste encore une minute. Sans motif et sans but. Puisque ma vie n'est rien, alors je la veux toute. Tout entière, tout à fait, dans toutes ses déroutes. Puisque ma vie n'est rien, alors j'en redemande, je veux qu'on m'en rajoute. 60 petites secondes pour ma dernière minute.
Carla Bruni sera de retour au rayon disque à l'automne. Elle a dévoilé le premier extrait, Quelque chose, il y a 2 semaines.
Ça va vous faire une grosse rentrée en termes de musique. Hein.
Il y en a des
albums qui arrivent, bien sûr. Bernard Lehu, on va faire un tour dans votre bibliothèque géante de polar avec Piètre le Laiton. C'est un livre culte puisqu'il s'agit de la première enquête du commissaire Maigret, publiée en 1929.
Et oui, d'abord sous forme de feuilleton dans un hebdomadaire, puis en roman. Et c'est une révolution. Le personnage de Maigret, Jules de son prénom, bouleverse le genre du polar. Comme Georges Simenon l'explique lui-même, on est en 1960 et c'est au cours d'un entretien accordé à la radio suisse.
Et à ce moment-là, il y avait peut-être une raison de choisir ce personnage. C'est qu'en France, à cette époque, le héros d'un roman policier était nécessairement ou le cambrioleur ou l'assassin, ou alors un amateur, soit un journaliste comme Rouletabille. Soit... Vous comprenez, le policier devait être toujours l'imbécile et le personnage antipathique. Alors comme j'avais beaucoup fréquenté les policiers, je me suis dit pourquoi pas faire un vrai policier, tel qu'ils sont à peu près dans la vie. Et j'ai fait Maigret.
Maigret, un brave type dont l'arme à feu préférée est la pipe, l'anti-héros par excellence. Son art de l'enquête, eh bien non pas jouer les fins limiers capables de dénouer les intrigues les plus complexes à la manière d'un Sherlock Holmes, mais agir comme une espèce de confesseur laïque, toujours dans l'attente de la fissure qui trahira le coupable. Plus que l'énigme policière, ce qui l'intéresse, c'est l'énigme que recèlent en eux les hommes et les femmes qui deviennent des criminels.
Et Bernard, dans sa première enquête, Pietre le Laiton, Maigret sera servi.
Ah oui, le commissaire prend en filature un escroc de haut vol, ce fameux Pietre, débarqué à Paris, mais dans le train qui l'a amené jusqu'à la gare du Nord, on retrouve le cadavre d'un homme qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Alors, qui est le vrai Pietre ? Maigret va se retrouver embarqué dans une enquête riche en rebondissements des beaux quartiers parisiens, aux brumes du port de Fécamp, où éclatera la vérité dans une sidération scène de confession de Pietre ou de son sosie. À vous de le découvrir.
Le suspense. Avec ce premier Maigret, Simenon débutait donc la plus impressionnante des séries policières.
75 romans, 28 nouvelles, 103 enquêtes au total. Un succès qui ne se dément pas depuis plus de 90 ans. Et pourtant, ce n'était pas gagné d'avance. Voici une archive formidable de Georges Simenon qui raconte la première réaction de son éditeur de l'époque, Fayard.
Alors il les lit, et le père Fayard, il me fait venir 8 jours. Après, il me dit, vous parlez un peu comme ça, c'était un gros monsieur très important. Mon petit Sim, vous comprenez, vos romans ne correspondent à rien. Comme roman policier, d'abord, ça ne tient pas debout, parce qu'il n'y a pas un vrai problème. Un roman policier, c'est une partie d'échec, et bien c'est pas une partie d'échec, mon roman. Deuxièmement, votre héros, Maigret, qu'est-ce qui va s'intéresser à un commissaire qui n'est pas du tout ni beau garçon, ni rien du tout, qui a 45 ans, qui est marié. Ensuite, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de personnage sympathique et de personnage antipathique, ils sont tous moitié-moitié. Enfin, ça finit presque toujours mal. Alors il me dit, nous allons à un désastre. Ben, je dis, alors vous ne les publiez pas. Si, on va essayer, il me dit. Voilà l'histoire du lancement des Maigret. Ça, je vous assure que cette scène est authentique.
Incroyable. Hein. Pietre le Laiton, le premier Maigret, signé Georges Simenon. C'est à lire ou à relire au livre de poche.
Merci beaucoup Bernard. Quelques notes de bonheur à présent. Anthony Martin, c'est l'heure de la pépite musicale.
Alors place à celui qui crevait l'oreiller parce qu'il rêvait trop fort. J'ai nommé Alain Bachung. Au début des années 90, Bachung ne vend pas beaucoup de disques. Et sur l'amicale pression de son label, il part aux États-Unis, 10 jours au studio Ardent de Memphis. Un rêve pour lui. Mais la condition est la suivante. Ramène un tube. Il reviendra avec un seul nouveau morceau, Osez Joséphine. Donc mission accomplie, hein, ça deviendra l'immense succès qu'on connaît. Et les 5 autres chansons qu'il rapporte de Memphis ne sont que des reprises. Ce qui énervera Pascal Nègre, le patron du label Barclay à l'époque, d'autant que Bachung a explosé sur place le budget. Il faut savoir que Bachung était en studio avec la crème des musiciens américains et pour créer de la complicité entre eux, parce qu'ils ne se connaissaient pas, chaque séance démarrait par une reprise. 4 de ces reprises sont parues dans l'album Osez Joséphine. Et il a fallu attendre 2003 pour qu'on découvre la 5e dans l'album collégial L'hymne à la môme, hommage à Edith Piaf. C'est notre pépite. Bachung avait en effet enregistré à Memphis en juillet 1991 cette reprise de la chanson de Piaf, Les amants d'un jour.
Moi je suis le verre au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer. Il me semble encore les voir arriver. Ils sont arrivés, se tenant par la main, l'air émerveillé de deux chérubins, portant le soleil. Ils ont demandé une voix tranquille à toi pour s'aimer au cœur de la ville. Je me rappelle qu'ils ont regardé d'un air attendri la chambre d'hôtel au papier jauni. Et quand j'ai fermé la porte sur eux, il y avait un soleil au fond de leurs yeux, que ça m'a fait mal, que ça m'a fait mal.
Alain Bachung chante du Edith Piaf. C'est une des raretés du répertoire de Bachung. Alors pour les fans, Bachung a laissé une malle au trésor. Il y a 4 albums de documents, duos, raretés dans sa discographie. On retrouve tout ça dans l'intégrale Bachung, mais aussi en streaming, bien sûr. C'est sorti l'an dernier en streaming. Tout
j'adore.
Ça. C'est beau, hein.
On prolonge le plaisir. Merci, Anthony.
C'est corps contre corps qu'on les a trouvés.
Pépite formidable en ce jeudi.
Là aussi, je la sais toute. Hein.
Je sais bien, c'est bien le problème. Elle est mondialement reconnue comme étant la reine de la zapette. On parle télé avec Isabelle Morini-Bosque. Après ceci, à tout de suite.
C'est l'été.
Laissez-vous tenter sur RTL.
Stéphane Carpentier.
Et surtout Isabelle Morini-Bosque pour la télévision. C'est donc Delphine Ernotte qui va diriger une seconde fois France Télévisions, Isabelle, pour 5 ans. Exactement. D'ailleurs, c'est une première dans l'histoire du service public. Hein.
Oui, tellement une première, le fait que le mandat soit doublé, que certains m'affirmaient dans les dîners en ville, les déjeuners en ville ces jours derniers, que ça ne se produirait pas puisque ça ne s'était jamais produit. Eh bien, or donc si, la voilà réélue. C'est peu de dire que son entourage a été soulagé hier à 17h40 au moment de l'annonce officielle. Si elle était en effet confiante à l'issue de sa prestation, elle a d'ailleurs été gardée 20 minutes de plus par les membres du CSA, elle a douté hier matin, sachant que Christopher Badelli et Pierre-Étienne Pommier, ses rivaux, avaient également assuré. Mais puisqu'ils se retrouvaient tous sur plusieurs thèmes très importants aux yeux du CSA, plus de création, plus de numérique, plus d'éthique, plus de plateforme, plus d'Europe, plus d'émissions d'info, plus de jeunes, plus de télééducatif, plus de diversité et de parité, et plus de place enfin faite aux personnes en situation de handicap, alors autant garder celles qui avaient déjà commencé à œuvrer et dont le bilan financier avait été disséqué. Bien sûr, des dents ont grincé à France Télévisions, où on a quand même beaucoup ricané quand elle a évoqué le haut niveau de dialogue social, fermez les guillemets. Ce qui a surpris durant son audition, c'est qu'elle a été par moments à la limite du lyrisme, notamment sur la création.
Je suis fière de la fiction populaire que nous proposons toutes les semaines, qui met en avant des héroïnes et des sujets de société, même difficiles. Personne ne nous croyait capables d'installer un nouveau feuilleton quotidien. Nous y sommes parvenus avec un si grand soleil. Personne ne pensait que notre jeune direction de la fiction numérique donnerait naissance en à peine un an à des pépites comme Parlement, Stoke ou Mental. J'étais la semaine dernière sur le tournage du Jeune Voltaire. Nous consacrerons à la rentrée une série événements sur le général de Gaulle et avons déjà engagé des adaptations littéraires telles que Les particules élémentaires ou Fortune de France. Et je rêve d'adaptation de la vie de Joséphine Baker ou celle de Romain Gary. Léonard de Vinci, franco-italien ou un tour du monde en 80 jours franco-britannique seront partagés en Europe. Je veux un service public qui émerveille, qui étincelle.
Voilà, une Delphine Ernotte heureuse. Je répète que l'audition, justement, de Delphine Ernotte peut se revoir sur le site du CSA. Très bien fait, très complet, simple d'accès. La preuve, j'y suis arrivée.
À propos de divertissement, il y a justement sur la 2, ce soir, une soirée variété.
Oui, hein. Alors c'est pas sûr que ce soit le meilleur exemple de création. C'est d'ailleurs ce qu'on reproche à Delphine Ernotte, qu'il en manque, puisque c'est en fait du reboutiquage. On prend des émissions déjà diffusées, on en extrait des passages, on remonte et ça s'appelle de l'inédit. Cela dit, je suis hypocrite parce que j'adore. Il s'agit ce soir, par exemple, des meilleurs moments des 35 victoires de la musique. Il y a tout et tous. Tiens, dites-moi qui c'est ça.
Comme une étoile qui s'éteint dans la nuit, à l'heure où d'autres s'aiment à la folie, sans un éclat de voix et sans un bruit.
Annie.
Sans un seul amour, sans un.
Je suis nul. Ça, je suis nul.
Non, mais ça aurait pu être logique. Ah, c'est Johnny qui va arriver. Et non, c'était Pascal Obispo et Jean-Jacques Goldman. Et bien sûr, Johnny. Voilà, lui, on le reconnaît. Alors, les temps forts sont souvent dus aux remettants. Là, Eddie Mitchell, chargé d'ouvrir le 3 février 1990, l'enveloppe de l'interprète de l'année, soit Elsa, soit Patricia Cass, soit Vanessa Paradis, sur une chanson de Serge Gainsbourg.
Eddie Mitchell, oui, je te laisse le soin.
De quoi faire ?
D'ouvrir l'enveloppe.
Non, j'ai eu peur parce qu'on pourrait m'accuser. Bon, voilà. Bah, je crois que ça va être une fille. Normalement. Ah, Vanessa Paradis.
C'est la deuxième fois que je pleure ce soir. Je suis désolée.
Ça va passer, ça va passer, ça va passer. Bravo Serge, bravo. Ah, c'est agréable. Déjà que t'avais une réputation, enfin.
Je vais dire plein de merci.
la suite ce soir parce que c'est très drôle. Côté fiction, vous le savez, je suis folle de la saga familiale This Is Us sur M6. Mais si vous aimez rêver, regardez Ballerina sur W9, film d'animation sur deux orphelins, une danseuse, un inventeur qui vont conquérir le Paris de 1900. C'est un bijou absolu et franco-canadien, monsieur. Ce qui est franco-français, en revanche, c'est évidemment Fantomas sur TMC. Faut-il encore résumer cette traque du criminel Fantomas par le commissaire Juve, le journaliste Fandor et sa fiancée Hélène? Bande-annonce de 1964.
Écoutez ça, messieurs. Vive Fantomas!
Tiens, bah, j'en connais un qui va bien rigoler en lisant ça.
Qui ça?
Fantomas?
Ah! C'est Fantomas!
Fantomas, un titre éclatant. Fantomas,
voilà.
Un
la
film
suite aussi
explosé.
Ce soir, car la télé, je le rappelle, c'est des directions, mais c'est aussi du contenu.
Merci Isabelle Morini-Vosque.